Le journal Mimi Ngumba Mulungu. Les titres du journal, c'est aujourd'hui que les bureaux de l'Assemblée nationale déposent au chef de l'État le rapport final de l'interpellation de ministres. Dans ces documents, la majorité des députés critiquent sévèrement la gestion des 9 ministres concernés. Une cinquantaine d'opérateurs des saisies ont manifesté ce matin devant les bureaux de la CEI et réclament le paiement de leurs primes. Les jeunes de Kindu s'impliquent dans la lutte contre les VIH-SIDA. Ils sont en formation sur le moyen de prévention contre la pandémie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Interpellation de ministres à l'Assemblée nationale. Les bureaux de l'Assemblée déposent ce mardi à la présidence de la République les rapports finaux de l'interpellation des 9 ministres par la Chambre basse du Parlement. Information livrée aujourd'hui par les rapporteurs généraux de l'Assemblée nationale. Parmi les 9 ministres interpellés figurent entre autres celui de la Justice, l'enseignement primaire et secondaire, le ministre des Transports, des Affaires foncières, voire celui de l'Urbanisme. À la suite de l'interpellation du député Lisanga Bonganga, l'Assemblée nationale en général critique sévèrement la gestion de ses ministres. Selon les rapporteurs généraux de l'Assemblée, c'est au président de la République d'en tirer toutes les conséquences. Raphaël Loulou répond aux questions de Jean-Claude Toumba Kamanga.
Le président de la République, nous l'invitons, conformément aux dispositions de la Constitution de la Transition, de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Après analyse de problèmes posés par l'interpellateur et les réponses données par les membres du gouvernement qui ont été envoyés à l'Assemblée nationale.
Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans le cas des 6 ministres suspendus qui devraient être mis en accusation par l'Assemblée nationale et c'est la présidence de la République qui vous demande de le faire et on veut vous jeter la balle?
Nous ne pensons pas parce que nous avons 2 cas qui sont peut-être différents. Le premier cas, le cas de 6 ministres auxquels vous faites allusion, c'était un cas d'audit dans les entreprises publiques, tandis que pour le cas présent, il s'agit de l'interpellation du gouvernement quant à sa politique générale.
Et puis, sachez que selon la Constitution de transition et l'accord de Pretoria, le président de la République ne peut révoquer un ministre sans l'aval de sa composante ou de son entité. Province orientale à présent signale que la population du territoire de Bafoua-Sendé, à 262 km à l'est de Kisangani, vit ces derniers jours sous la terreur du commandant Maïmaï, connu sous les pseudonymes du général Michigan. Celui-ci tire constamment en l'air depuis le 11 novembre dernier, provoquant ainsi la psychose chez les habitants de cette partie de la province orientale. La MONUC et la 9e région militaire sont préoccupés par cette situation. Une rencontre se déroule en ce moment entre les deux parties pour tenter d'y mettre fin. Jacques Moukonkolé.
Depuis son retranchement à Bafoua-Sendé au mois de mai dernier, à la suite d'un accrochage avec les FRDC et les GSSP, M. Michigan ne cesse de multiplier des incidents. Selon le dernier rapport des observateurs militaires de la MONUC, basé à Bafoua-Sendé, le climat y est actuellement tendu. Le fameux général tire en l'air à tout bout de champ. Au moins 6 coups de feu entendus le 11 novembre dernier dans la cité. Il exprimait ainsi sa colère face à l'inefficacité, d'après son appréciation, de ces éléments qui n'auraient pas réussi à accomplir sa mission, celle de lui amener né vif ou mort, le commandant FRDC en place à Bafoua-Sendé. Toujours selon l'œil et l'oreille de la MONUC, le commandant Maïmaï a passé à tabac un pasteur dont un des fils a eu des entretiens particuliers avec un responsable d'une ONG. Entretien jugé suspect par Michigan. Les observateurs militaires de la MONUC parlaient donc d'un comportement imprévisible du commandant Michigan qui laisse tout le monde perplexe. C'est pour justement parer à toute autre éventualité que les commandants de la 9e région militaire et celui du secteur 2 de la MONUC discutent présentement au bureau du général Padiri. Il s'agit, selon la MONUC, d'envisager certaines options pour régler définitivement ce problème. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Et dans la province du Katanga, le tribunal militaire de Likasi s'est déclaré hier incompétent dans la cause opposant le ministère public aux 12 prévenus accusés d'avoir planifié une attaque généralisée sur Kinshasa en juillet 2002 en vue de renverser l'ordre établi. Ces prisonniers doivent être acheminés à Kinshasa où les faits qui leur sont reprochés sont supposés avoir été commis. Satisfaction mitigé de la défense qui applaudit la décision du tribunal, mais craint que les autorités du pays trouvent là un prétexte de garder encore longtemps leurs clients en prison. L'un des avocats dit aussi que leurs clients auraient dû être relâchés depuis 2003 en bénéficiant du décret d'amnistie signé par le président de la République en cette date. Maître Patrice Mpungwembuyu au micro de Paul Kaboba.
Nous sommes en partie satisfaits parce que c'est l'un des moyens que nous avons invoqué, à savoir les juges de Likasi n'étaient pas compétents pour connaître de cette cause, en ce sens que les faits se sont déroulés à Kinshasa et les prévenus avaient été appréhendés au niveau de Kinshasa. Pas totalement satisfait parce que les prévenus devront encore attendre longtemps. Ils ont déjà passé 3 ans en détention. On ne sait pas encore combien d'états cela devra prendre pour qu'ils soient acheminés devant les juges de Kinshasa qui est habilité à connaître de l'affaire. Normalement, les faits qu'on leur reproche dans le temps, ils rentrent dans le cadre de l'amnistie. C'est devant les juges qu'on devra l'évoquer, à moins qu'à ce jour, les ministères publics, en statuant, ils puissent conclure sur l'inopportunité de poursuite, parce que les faits eux-mêmes rentrent dans le cadre de l'amnistie. Donc, même dans un procès, ceci sera un moyen, on va qualifier les faits et on va les situer dans le cadre de l'amnistie. Et ils peuvent en bénéficier, c'est vrai.
Dans un communiqué de presse rendu public hier à Lubumbashi, Action contre l'impunité et pour le droit de l'homme réclame la libération de ces détenus car, selon cette ONG, ils devraient bénéficier de ce décret d'amnistie, d'autant plus que ce décret avait déjà connu un début d'exécution en faveur de certains militaires arrêtés en même temps que ces prévenus. Kasai Oriental, de problèmes de distribution d'eau dans la ville de Mbujimayi sur place, seulement un quart de la population bénéficie de services de la régie des eaux. Une délégation de la Banque mondiale finalise une mission de travail et a évoqué ce dossier parmi tant d'autres, d'où la Banque mondiale a mis la main dans la poche pour renforcer la distribution d'eau. Les détails avec Julien Nyamouini.
La Banque mondiale accorde à la ville de Mbujimayi une enveloppe de l'ordre de 3 millions de dollars américains pour son développement, dont presque la moitié servira au financement du secteur de production et de distribution d'eau potable. La direction de la régie des eaux Kasaï orientale estime que les besoins d'eau potable dans le chef-lieu de province sont urgents. Elle estime à moins de 25% la population approvisionnée en eau potable. Mbujimayi compte environ 3 millions d'habitants selon les chiffres officiels. L'urgence des travaux portera sur la réhabilitation des conduites d'eau principales provenant des stations de traitement et le développement des raccordements chez les particuliers. Ce montant sera géré par le BCECO, le bureau central de coordination basé à Kinshasa. La mission souligne que ce financement s'inscrit dans le cadre du programme multisectoriel d'urgence pour la reconstruction et la réhabilitation PEMUR. Julien Nyamouini, Mona Chango, Mbujimayi, Radio Okapi.
Au Kasaï occidental, on signale plutôt que la régie des eaux initie une série de campagnes de sensibilisation dans cette province. C'est pour lui permettre de récupérer des sommes d'argent auprès de ses abonnés. Cela après avoir constaté que les consommateurs d'eau n'honorent pas leurs factures. Cette campagne a commencé par un dialogue avec la base à travers les communes de la ville de Kananga. Reportage André Kambala.
À Lukonga, l'une des 5 communes de Kananga, les clients doivent à la régie des eaux une somme de 21 706 000 francs congolais. Cette situation rend difficile le fonctionnement de l'entreprise à Kananga. Louis Zelo Kamboliomi, directeur provincial de la régie des eaux, note comme conséquence la paralysie de l'administration car tous les agents sont envoyés au recouvrement. Il y a aussi l'interruption de fourniture d'eau par manque de produits appropriés et enfin l'impayement continu des agents. Pour mettre fin à cette situation, la direction provinciale a privilégié le dialogue à la base en passant par les sièges des communes. À l'étape de Lukonga, la population formulait ses demandes auprès de l'autorité de l'entreprise. Résumé de ses préoccupations avec Martin Kabambachikopoukoupou, bourgmestre adjoint de la commune.
La facturation exorbitante, la vétusté des robinets qui laissent couler beaucoup d'eau. Avec la plupart des robinets sont déjà vétustes. Et puis quand on envoie l'eau, au lieu de l'eau passe dans le comptoir, ça coule par terre. Alors c'est ainsi que quand la population se voit facturée d'une manière exorbitante, alors elle se décourage pour ne pas parvenir à payer.
Le travail similaire continue dans d'autres communes. La régie des eaux est déterminée à convaincre la population pour la maximisation de ses recettes. Kananga, André Kambala, Radio Kapi.
Chapitre santé, les populations des Kitutu en territoire de Mwinga en proie à des sérieux problèmes de santé. Nous sommes là dans le sud Kivu. Ce les constats faits par une mission humanitaire qui s'est rendue hier dans cette région. Elle était conduite par les bureaux humanitaires au Tchad. De nombreux cas de malnutrition aiguë ont été signalés et les taux de mortalité est estimé à plus de 10%. Le point avec Dieudonné Bagalwa.
En plus de l'enclavement, cette cité qui compte plus de 60 000 habitants est confrontée à de nombreux problèmes humanitaires. La santé est l'une des préoccupations des organisations internationales présentes dans la région. Aucune source d'eau aménagée n'y existe, ce qui serait à la base de nombreuses maladies diarrhéiques. Selon le médecin-chef de zone de santé de Kitutu, les maladies les plus fréquentes sont entre autres les infections respiratoires, la tuberculose, le paludisme, pour ne citer que celles-là. Les cas de bilharziose sont aussi nombreux dans la région. Des organisations internationales, notamment l'IRC, International Rescue Committee, assistent les populations à médicaments. La quantité de médicaments fournis est jugée insuffisante par les bénéficiaires et pour cause, des détournements des dons en faveur des populations sont signalés et dénoncés par les habitants. Témoignage d'un d'entre eux.
Tous les médicaments nous arrivent et retournent. Quand les borderons quittent, ça vient de Bukavu Kitutu. Quand ça arrive à Kitutu, ça retourne encore pour Bukavu. Et le pay qu'on donne dans les pharmacies, ça reste encore pour eux. On ne bénéficie de rien pour tout ce que les ONG nous expédient.
Présente dans la mission, l'ONG internationale IRC promet des sanctions graves si son personnel sur place se trouve impliqué dans ce détournement. Dieudonné Bagaloua, Bukavu, Radio Kapi.
Au Nord Kivu et à Goma précisément, le bureau de la commission électorale indépendante a été assiégé ce matin par une cinquantaine d'opérateurs de saisie. Ce dernier se plaint de voir la CEI clôturer les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs au Nord Kivu avant d'honorer les paiements de leurs primes. La police a réussi à les disperser de force après avoir arrêté 7 parmi eux. 13h11 dans la province du Maniema, les jeunes de Kindu décident de lutter contre le VIH-Sida. Ils ont organisé une rencontre de sensibilisation des 2 jours et c'est le médecin de l'ONG britannique Merlin qui leur donne des conseils sur la prévention contre cette pandémie. Jean-Serge Chindani.
Une vingtaine de jeunes volontaires de la ville ont décidé d'étudier comment lutter contre le VIH-Sida. Ceci avec l'aide du médecin de l'ONG britannique Merlin. Pourquoi cette initiative? Un des jeunes du groupe explique.
Nous avons constaté beaucoup de jeunes ne croient pas à l'existence du sida au Maniema et donc ils ne prennent aucune précaution contre cette pandémie. Nous, jeunes volontaires de Kindu, nous avons intéressé les docteurs Simplice qui est chargé du programme de sida au Merlin pour nous donner les amples renseignements sur le sida. Et après la formation à notre tour, nous allons sensibiliser les jeunes pour se protéger contre le sida.
Quel genre de conseils et explications leur donne le médecin de l'ONG Merlin, Dr Simplice Mboula.
On va parler du VIH-Sida, on va parler d'un certain nombre de définitions. Qu'est-ce que le VIH, qu'est-ce que le Sida, qu'est-ce que la période de séroconversion ou période muette, qu'est-ce qu'on appelle infection opportuniste. On va parler du VIH-Sida en général. En général, on va parler du VIH-Sida.
Notons que cette rencontre qui a débuté le dimanche 13 novembre 2005 a pris fin ce lundi 14 novembre à 16h. De Kindu, Jean-Serge Chindani, Radio Okapi.
Au Burundi, toute la coalition gouvernementale demande les désengagements progressifs de la mission de l'opération des Nations Unies dans ces pays. Cette question a été évoquée par la classe politique burundaise avec la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU qui vient de séjourner dans ce pays. Sachez que le Burundi vient de terminer il y a quelques mois sa transition avec l'élection en août dernier de son président Pierre Nkurunziza. Jean-Baptiste Manouangari, président de l'UPRONA.
Au stade actuel, nous pensons que nous n'avons pas besoin de la présence de plus de 5000 hommes sur le sol burundais parce que le processus des élections est terminé. Ces troupes étaient venues en grande partie pour ça aussi. Le processus de réforme et d'intégration de l'armée et de la police est très avancé. Donc à ce stade-ci, nous pensons bien que les troupes devraient être dégraissé progressivement de manière à ce que, après une certaine période à convenir avec les dirigeants de son pays, toute la troupe disparaisse. Nous sommes dans une période post-électorale et post-conflit. Il doit y avoir de la part de la communauté internationale un certain rôle de vigilance pour que progressivement ils nous accompagnent vers une paix durable, vers la stabilité du pays.
Sachez également que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas opposé à ce départ progressif de l'ONU du Burundi, mais tout devra se faire de manière graduelle. Question de sauvegarder la paix encore fragile dans ce pays. Jean-Marc de la Sablière, chef de la mission du Conseil de sécurité.
Une discussion va commencer entre l'ONU et enfin, les Nations Unies et les autorités burundaises sur ce que l'on appelle un désengagement progressif de l'ONU. Cette expression a été utilisée par les autorités burundaises, elle est utilisée par les Nations Unies, car il est tout à fait logique et normal à partir du moment où une opération de maintien de la paix a achevé une mission, que la transition a été réussie, il est normal d'envisager le désengagement. Mais l'expérience nous montre que pour bien consolider la paix, il faut que ces désengagements soient progressifs. Les autorités burundaises en décideront, car elles sont totalement souveraines, et nous sommes là essentiellement pour les aider. Mais leur souhait, au-delà de l'ONUB, c'est que les Nations Unies, en général, restent présentes en soutien des efforts des autorités burundaises pour consolider la paix.
Ce reportage a été réalisé à Bujumbura par Léonard Moulamba. Et en Ouganda, les forces de sécurité ont dispersé ce mardi à Kampala des centaines de sympathisants de l'opposition. C'est au moment où l'opposant Kizza Besigye, arrêté hier, devait être présenté à la justice dans la journée. L'opposant, qui est rentré au pays depuis le 26 octobre après 4 ans d'exil, est accusé de trahison et de viol par les autorités ougandaises. De nombreux magasins étaient fermés et le trafic automobile moins dense d'ordinaire ce matin dans la capitale ougandaise. Voilà tout pour cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Okay.